Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
On est en train de virer fou, là.
Mathieu Bock-Côté.
Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens.
Richard Martineau.
C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas.
La rencontre Martineau Bock-Côté.
Alors, mon cher Mathieu, de quoi tu veux nous entretenir ce matin?
Ben en fait, je voulais prendre la suite de ta réflexion sur ce qui arrive aux deux filles qui ont fait Transmania, Margaret Stern et Dora Mouto, pour te montrer jusqu'où s'est rendu l'interdit autour de ces questions en France, mais pas seulement en France, puis je vais élargir plus largement avec d'autres questions semblables qui ont touché la vie politique. Mouto et Stern, j'ai préenregistré exceptionnellement mon émission. J'ai reçu une heure, donc dans mon émission qui va passer ce samedi à 19h de Paris, 13h de Montréal.
Wow.
Ce qui m'a frappé chez ces deux filles-là, c'est qu'elles ont une connaissance, très documentée de leur sujet. C'est pas une série d'opinions aussi éclairées soient-elles sur la théorie du genre. Ce qu'elles ont voulu faire, c'est une enquête en profondeur sur le sujet. J'ajoute, parce que ça, c'est la première chose à noter, elles me racontent dans l'entretien, je vois pas tout leaker, mais elles me disent aussi, ça m'a frappé, elles se voyaient comme des féministes de gauche, qui appartenaient à la gauche et tout ça. Et quand elles ont touché à cette question, elles ont été chassées du rang de la des frontières de la respectabilité médiatique, sociale, politique. Bon, toutes dans ces dimensions-là, en quelque sorte, ils ont été frappés d'interdits. Et là, ce qu'on voit en ce moment en France, je t'avais parlé du fait que les affiches de leurs livres avaient été retirées à la demande de la mairie de Paris, donc on interdit leur publicité à Paris. Mais de la même manière, dans plusieurs librairies, les livres sont cachés. Ils sont cachés. Donc là, des vidéos, tu vois, sur le réseau. Donc, ils cachent les livres. Et là, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est qu'aujourd'hui, il suffit d'utiliser le terme transphobie pour faire taire toute réflexion possible sur ce qui est quand même, à l'échelle de l'histoire, une véritable révolution. Je veux dire, on en est arrivé à croire que l'identité sexuelle est une pure construction sociale qui n'a pas d'ancrage anatomique et biologique. Dire, dans l'histoire du monde, c'est une nouveauté radicale. On peut penser que c'est une folie. Mais cette révolution-là, comme toutes les révolutions, je dirais, elle est intolérante. Et de quelle manière est-elle intolérante? Eh bien, il s'agit désormais d'interdire la réflexion sur le mode de l'intimidation médiatique et sociale. Les deux filles en question ont vu leur vie, lorsqu'elles ont commencé à remettre ça en question, elles ont vu leur vie vraiment, on pourrait dire, la mort sociale a été programmée. La mort sociale a été programmée et pas à moitié. Donc, perte de contrat, perte de liberté économique, perte de capacité. Le prix à payer pour rappeler qu'un homme a un pénis et une femme a un vagin, c'était assez élevé. Donc là, je te donne ça. Ensuite, je te donne une autre controverse dont je vais faire le lien.
Je fais une parenthèse. Ces deux, tu les as reçus à CNews. Si ce n'était pas de CNews, ces femmes-là seraient dans aucun média. J'imagine, elles sont barrées à la radio, elles sont barrées à la télévision.
Ça me fascine parce que là, ils ont accès. Ils ont eu un passage sur RMC, je crois, mais sinon, ils sont cantonnés, appelons ça, dans les médias périphériques. Et c'est y a qu'à CNews, et c'est que Pro les a reçus lundi. Moi, je les reçois samedi. Et là, sinon, il n'y a pas d'accueil pour elles dans l'espace public. Et ce qui est drôle, c'est qu'Adèle Van Riet, qui dirige France Inter, disait il y a quelques jours, il y a de la place pour tous les points de vue sur France Inter. Il n'y a pas de discrimination politique et idéologique. Alors, plusieurs ont retweeté le message d'Adèle Van Riet, elle disait ça dans le passage à l'émission C'est médiatique. Puis là, elle dit, mais parfait, pourquoi vous les invitez pas? C'est un vrai phénomène, objectivement. C'est un livre qui justifie aujourd'hui une censure de la part de la mairie de Paris. En tant que tel, c'est un phénomène intéressant. Pour l'instant, silence radio, on n'en parle
pas.
Parce que ce discours, on nous explique que ce n'est pas un discours. C'est un propos haineux. Qu'est-ce qu'un propos haineux? C'est ne pas être d'accord avec le progressisme du moment. Là, je vais te faire le lien avec une figure que, d'un point de vue québécois, parce qu'on a un réflexe pavlovien avec certains noms, on va se dire, aïe, 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 comment il veut vraiment se mettre dans la chenoute en osant nommer ce nom-là. Marion Maréchal. autrefois connu Marion Maréchal Le Pen. Au cœur d'une controverse depuis hier. Alors, il y a un couple, couple d'hommes qui ont, ils étaient très heureux, ils ont eu un enfant par GPA, donc gestation pour autrui, donc les mères porteuses.
Elle écrit, se sont photographiés avec leurs jumelles, leurs deux enfants, et là, Marion Maréchal Le Pen a écrit, mais où est la maman? C'est ça?
Où est la maman? Quatre mots. Où est la maman? Ce qui est une question qui, me semble-t-il, est légitime. Personne ne dit que les deux vont pas bien élever leurs jumelles. Personne ne dit que les... C'est pas ça la question. Elle dit alors, où est la maman? Parce qu'au même moment, en France, au même moment en Europe, il y a eu une loi qui a été votée au Parlement européen pour un règlement pour interdire la GPA. Donc la GPA, la gestation pour autrui des mères porteuses, c'était interdit au niveau européen. Et au même moment, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ben oui, la maman, manifestement, il y a eu un cas de GPA là-dedans, donc c'est illégal. Par ailleurs, est-ce que, sur le plan philosophique, l'idée qu'une mère porte un enfant en accouche et le confie immédiatement, qu'on vienne pas me dire que ça pose pas des questions. Moi, j'attaque pas les gens qui font ça, je veux être très respectueux vraiment là-dessus, mais je note qu'il y a une dimension politique. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On l'a traité d'homophobe, on l'a traité de tous les noms, on l'a dit extrême droite, on a dit avec une famille comme la vôtre, on comprend, mieux vaut n'importe quel parent qu'une famille comme la vôtre. Donc pour la simple remise en question du principe des mères porteuses, moi, les mères porteuses, on peut être pour ou contre, ça, mettons, c'est un débat. Mais non, c'est pas un débat, parce que la volonté juste de poser la question vaut l'accusation d'homophobie. Alors là, c'est assez particulier. Et là, on dira, ben oui, la papa, oui, la maman, c'est dans une société qui a congédié le père et la mère pour remplacer ça par parent 1, parent 2, ben, peut-être qu'on a la réponse philosophique en amont. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'encore une fois, sur une question qui est importante, on a décidé qu'il n'y avait pas de débat possible. Donc, c'est assez fascinant de voir. Puis j'insiste en... C'est interdit. Donc, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, on y a posé la question parce qu'Emmanuel Macron avait déjà dit qu'il s'y opposait. Donc, elle a dit du discours de Marion Maréchal, c'est de la haine, c'est honteux, c'est inacceptable. Mais au même moment, on lui dit, mais c'est la loi. Puis le président de la République lui-même était contre ça. Et là, on l'a vu dans une forme d'écartèlement de principe, mais elle continuait de tenir un discours interdisant tout débat sur ça. Ça me frappe de voir comment certains débats sont interdits, même si on pourrait les mener, on voudrait les mener respectueusement.
Écoute, j'ai très hâte de voir ça samedi, l'entrevue que tu as fait avec ces deux femmes-là. Tu disais d'entrée de jeu qu'elles sont de gauche. Hein? Elles se disent de gauche. Est-ce que ça, justement, ce qui leur est arrivé, est-ce que ça les force à remettre en question leur appartenance idéologique et à critiquer leur camp? Parce que là, à leur corps défendant, elles se retrouvent soudainement reléguées à droite, à l'extrême droite. Est-ce qu'elles ont une vision différente de ce qui est la gauche en France maintenant?
Tu connais ma théorie, hein? On décide jamais si on est de gauche, c'est la gauche qui décide si on est avec elle. Donc la gauche s'autoproclame gauche et renvoie à droite tous ceux dont elle ne veut pas. Alors, elles étaient Stern et Moutot. Moutot, par exemple, elle s'est fait connaître par, je pense, un compte Instagram sur le mode de la jouissance féminine. Et Stern, elle dénonçait les violences faites aux femmes dans la rue. Bon, ça c'était leur cause, puis elles se voyaient comme de gauche. Et là, elles étaient des féministes de gauche. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait leur dire que c'est parce qu'elles se veulent encore féministes qu'elles se voient peut-être plus de gauche. Ensuite, moi, pour aujourd'hui, gauche-droite, je laisse aux gens le s'ils veulent être de gauche à tout prix, ça les concerne, mais je pense qu'elles se sont senties chassées de l'Église. Elles se sont senties chassées de la religion de gauche, mais tout comme si en 56, tu condamnais l'intervention des Soviétiques à Budapest, ben tu trahissais le communisme. Hein? Et là, t'étais plus de gauche, t'avais trahi le communisme. En 68, quand tu condamnais l'arrivée des Soviétiques, encore une fois, au printemps de Prague, t'étais plus dans la bonne équipe. Quand tu cessais de croire à la révolution, puis que tu devenais un réformiste ordinaire, ben t'étais renvoyé à droite. Ben j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu penses que, comme on dit dans Un flic à la maternelle, il y a un zozo, je me permets de le nommer, parce que je m'amuse à citer cette citation-là qui m'amuse, il y a un zozo qui dit, c'est le film préféré de Bock-Côté. Non, 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 je t'explique. C'est juste une citation que je trouve drôle, OK? Quoi qu'il en soit, les garçons, ils ont un pénis et les filles, elles ont un vagin. Ça, c'est un marqueur de droite et d'extrême droite aujourd'hui. C'est quand même absolument exceptionnel parce que le ressenti est plus important que tout.
Mais ces deux auteurs-là, ces deux femmes-là sont intimidées, dénoncées, attaquées, harcelées par une petite clique médiatique. Monsieur et madame tout le monde, j'imagine que ces gens-là sont dans leur camp. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui dans le Figaro un sondage. S'il y avait des élections présidentielles aujourd'hui, Marine Le Pen gagnerait les élections. Ça me surprend pas. Monsieur et madame, tout le monde voit ces dérapages-là partout. Et là, ils disent, ça n'a pas de bon sens, il faut une digue, il faut élever une digue contre ce dérapage de gauche radicale. Alors, ça va être aux États-Unis Trump, ça va être au Canada Poilievre, ça va être en France Marine Le Pen, ça va être Orban ailleurs, puis tout ça. Et moi, je pense que, je suis en train de me demander, Mathieu, si c'est pas ce que veulent les gens de la gauche radicale, ils veulent vraiment avoir des leaders comme Marine Le Pen et avoir des leaders comme Trump, puis là, ils vont pouvoir vraiment être en guerre. Ah oui. Là, c'est ça qu'ils veulent, être dans la rue puis être en guerre contre ces gens-là. Puis c'est pour ça qu'ils font des dérapages comme ça. Parce qu'ils doivent le savoir, ils sont intelligents, ils doivent savoir que ces dérapages-là, ben, tout ce que ça fait pour résultat, ça fait qu'on va avoir, maintenant, on va se retrouver avec des leaders plus autoritaires. Voilà.
Bon, alors, moi, j'aurais un petit point de désaccord avec toi. Tu dis, ils sont intelligents. J'en suis pas toujours certain. Parce que franchement, moi, ils sont fanatiques. Ça, j'en suis convaincu. Ils sont bardés souvent de diplômes, mais produits par l'industrie à diplôme qui est l'université aujourd'hui, qui considère que t'es un scientifique, si t'es genre sociologue en théorie du genre. Bon. Donc, tu sais, il y a quelque chose d'un peu étrange. Ensuite, je pense qu'une partie de la gauche radicale rêve de l'affrontement direct. Hein, c'est Mélenchon. L'affrontement direct avec la droite populiste. Ça m'apparaît évident. Et pour eux, il faut se délivrer dans leur esprit des bourgeois centristes, même si entre toi et moi, les bourgeois centristes peuvent être assez bizarres des fois. Ils veulent s'en débarrasser pour avoir un affrontement ouvert, parce que dans leur tête un peu tordue, c'est fasciste contre antifasciste. Ce qui est quand même loufoque, parce que on peut reprocher bien les choses de Marine Le Pen, mais la traiter de fasciste, c'est absurde. C'est absurde. On peut dire qu'elle a une politique économique qui est pas responsable. On peut penser que les critiques, on en connaît des tonnes. Mais dire qu'elle est fasciste, se tromper d'époque, c'est se tromper de période, c'est se tromper sur à peu près tout. Puis ça rend le débat politique irrecevable et incompréhensible, parce que les plus de 50% de seuls Français qui pourraient voter pour elle sont pas des fascistes. C'est pas simplement non plus des électeurs égarés qui savent pas pour qui il voterait. À un moment donné, il faut juste être capable de se dire qu'on est dans un débat où il y a plusieurs camps qui existent et la diabolisation n'est pas très utile. Mais ce qui est certain, c'est que le carburant des partis qu'on dit populistes ou nationaux conservateurs aujourd'hui, c'est souvent les dérives de la gauche radicale, parce que pour la gauche radicale, c'est pas des dérives. Pour la gauche radicale, c'est tout autant de progrès dans la bonne direction. Ce sont des transgressions audacieuses qui permettent d'aller dans une société de plus en plus ouverte, de plus en plus inclusive. Mais le commun des mortels dit, un instant, là, si le père et la mère n'existent plus, si parent 1 et parent 2 ont tout remplacé, si l'immigration massive n'est pas un problème, et d'ailleurs, elle n'existe même pas, même si on voit nos pays se changer à vue d'œil, si la question de l'islamisme n'existe pas, même si on voit partout s'imposer le voile, si la question de la théorie du genre n'existe pas, mais si on voit dans les écoles de plus en plus d'enfants qui s'identifient à un autre sexe que le leur au nom de la théorie du genre. À un moment donné, le commun des mortels dit, mais c'est assez. Là. C'est assez, puis qui dans l'espace public dit assez fort, c'est assez. Nos amis de la gauche radicale disent, ah, c'est terrible, le fascisme est de retour. Non, un instant.
Non.
Lâchez la grille d'analyse fasciste-antifasciste et constatez simplement qu'à un moment donné, dans la population, il y a un désir quelquefois de ramener une forme de ce qui est vu comme un bon sens. Est-ce que ces partis-là traduisent bien le bon sens? J'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à se dire que c'est pas des fascistes ni des nazis, puis qu'ils sont légitimes, et puis qu'on pourrait voter pour eux, à la rigueur, entre les woke et eux, entre la gauche radicale et eux, ben leur tête commence à se faire. Encore une fois, chacun vote comme il souhaite, mais défascisons ce débat, ça va nous faire progresser.
Cela dit, je reviens à Transmania pour que monsieur et madame tout le monde sachent s'ils sont d'accord ou pas avec ce livre-là. Encore faut-il qu'ils connaissent son existence. Puis si soudainement, il y a un silence radio, on ne parle plus de ce livre à la télévision ou à la radio, tout ça, ben on en perd. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, d'avoir accès à certaines informations. C'est incroyable, ça.
Mais ce qu'en URSS, il y avait ce qu'on appelait les samizdats. Les samizdats, c'était la littérature clandestine. C'était la littérature qui n'était pas autorisée par le parti. Ben, de la même manière, aujourd'hui, il y a de la littérature clandestine. Transmania est un livre qui relève de la littérature clandestine. Objectivement, une interdiction dans la ville de Paris pour qu'on puisse assurer la publicité du livre. Bon, de la même manière, il y a beaucoup de livres qui, quelquefois, paraissent chez des éditeurs un peu périphériques parce que les éditeurs du mainstream sont pas prêts à les accueillir pour différentes raisons. Et il y a des informations qui sont dans les marges, puis qu'on n'y croit pas des fois. On y croit tout simplement. Moi, ça me frappe, en fait. Il y a eu, par exemple, une querelle récemment sur l'éducation sexuelle en France. Et une psychologue a dit, vous savez, avec l'argent des contribuables, on s'exprime, explique aux enfants de 10-11 ans comment faire des alulingus. Bon, c'est pour les protéger comme ça. Ouais, c'est une affaire de fou. Mais là, les progressistes disent, c'est faux, c'est une fake news, dénoncez la... Et là, tu regardes, c'était juste vrai. C'est-à-dire, ce site, on s'exprime au nom de l'éducation sexuelle pour amener les jeunes à se protéger, de ne pas faire ci, ça, ça, explique quand même des choses un peu étranges pour des enfants de 10, 11, 12 ans. Et là, moi, ce que je dis, c'est que les progressistes ne croient pas à leur propre monde. Ils ne croient pas au monde. Donc, ils voient des fake news dans ce qui sont les conséquences réelles de leurs propres idées. Donc, c'était assez intéressant comme séquence. Donc, quelquefois, quand tu ramènes des faits qui sont vraiment frappants, eh bien là, la réaction du système, c'est « Ah, mais c'est des faits divers. » C'est des faits. Mais... Ou ils disent fake news ou faits divers, mais ils peuvent pas imaginer que ce soit un fait qui soit politiquement pertinent et dont on doit parler.
Et je reviens là-dessus, c'est du terrorisme intellectuel qu'ils font.
Oui, bien sûr.
C'est ça.
C'est la formule... Jean Sévillia avait eu cette formule, le terrorisme intellectuel, c'est un très grand livre qui est paru, je pense, en 2000, si je ne me trompe pas, et qui demeure d'une pertinence remarquable pour comprendre les mécanismes par lesquels la gauche radicale, et même la gauche souvent, décide de transformer en un procès d'inquisition tout débat public pour être capable de chasser les contradicteurs du périmètre de la légitimité.
Et là, monsieur, madame, tout le monde regarde ça, des antiracistes complètement siphonnés qui voient du racisme partout, du colonialisme partout, de l'autre côté, des néo-féministes qui voient du patriarcat partout, puis que tout devient une agression, de l'autre côté, des gens, des adeptes de la théorie du genre qui voient de la transphobie partout. Et là, écoute, ça me surprend pas, ça ne m'étonne pas de voir aujourd'hui un sondage disant Marine Le Pen pourrait gagner les élections. Ça tombe sous le sens.
Non, mais à un moment donné, qui pouvait croire qu'il n'y aurait pas de réaction devant ce discours-là?
Ben oui.
Et le moment de la réaction est peut-être arrivé. On verra ce que ça donne, mais il est peut-être arrivé.
Bon, ben en tout cas, on va regarder ça, bien sûr, cette entrevue-là à CNews samedi avec les deux auteurs de Transmania. Merci Mathieu, on se reparle demain. Bonjour.